Chères poditrices, chers poditeurs, bienvenue dans la chronique Jeux du mois, une émission de Proxy Jeux. Je suis Twin et aujourd'hui je suis accompagné par Benoît FX. Bonjour Benoît FX.
Salut Twin, content de te retrouver pour cette première chronique ensemble.
Ouais, c'était super sympa la dernière fois avec Cyrus.
Tu verras, ce sera encore mieux avec moi.
Il nous a laissé complètement carte blanche là pour faire notre petite émission entre nous.
Tout à fait. Je crois qu'il est à Essen ou sur le retour là en ce moment, donc c'était compliqué pour lui au moment où on enregistre.
Donc cette émission chronique jeu du mois, on va parler de deux jeux. Je vais parler d'Undo et toi tu vas parler de Vilenus.
Tout à fait.
Deux titres anglophones qui n'ont pas de traduction dans la langue de Molière.
Bah si.
Ah bon?
Non, les titres tu veux dire, oui. Non.
Eh oui, pas les titres. Mais les jeux sont disponibles
c'est
en
vrai,
français.
C'est vrai. Ont les titres anglophones, ils n'ont pas changé de titre.
Et grande joie, ils sont disponibles chez notre partenaire Philibert.
Tout à fait. Avant de commencer, est-ce qu'il y avait des commentaires l'émission précédente?
Alors, il y avait quelques commentaires où Patrice et moi, on disait des choses sur comment est-ce que je ferais des commentaires pour parler de mes commentaires. Est-ce que j'ai le droit de faire des commentaires?
Bah oui, tu dois faire des commentaires. Ça, c'était un contrat à passer avant de rejoindre l'équipe. Un commentaire par chronique.
Sinon, il y avait des petits commentaires, je crois, sur Détective, un jeu d'enquête moderne que Cyrus nous présentait.
Ouais, tout à fait. Alors, il y a Finger in the Nose qui s'interrogeait sur le site, en fait, Antares, donc la base de données qui sert à jouer à Détective, sur laquelle on va chercher justement des informations et puis taper notre rapport. Bah, il se demandait justement si ce site serait maintenu indéfiniment. Et si c'était pas le cas, si le site ne fonctionnait plus ou n'était plus maintenu, est-ce qu'on se retrouverait pas avec une boîte qui servirait à rien, puisque sans cette interface web, on ne peut pas jouer au jeu.
Ouais, c'est vrai, c'est une question intéressante, ouais, tout à fait.
Bon, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas question qu'il soit arrêté, puisqu'il y a des extensions qui sortent. Là, il y a une extension qui est sortie il n'y a pas très longtemps, Los Angeles Crime, un truc comme ça. Mm-hmm. Et voilà, je pense vu que le jeu marche bien, ils vont continuer à faire des extensions. Donc le site n'est pas prêt de disparaître, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question à moyen long terme, dans quelques années, peut-être à 10 ans, est-ce qu'on pourra encore jouer avec nos vieilles boîtes de détectives.
Au pire, ça veut dire que si vous avez envie de jouer à détective, faites-le tout de suite, vite,
c'est
maintenant.
Ça. Et on a aussi Alès qui disait juste qu'il était d'accord avec la présentation de Cyrus, voilà. Donc Cyrus doit être content, merci Alès.
Merci.
Et toi, t'as présenté les tavernes de la Vallée Profonde, il y avait aussi quelques commentaires, je crois.
Ouais, en fait, on avait le pionfesseur qui allait un petit peu plus loin là sur la production de son auteur, Wolfgang Warsch, et qui disait que selon lui, Wolfgang faisait deux grands types de jeux. Les jeux coopératifs avec une communication limitée, comme The Mind ou Fuji, et ce qu'il appelle les arcade puzzles, où on fait des petites actions qui valent pas grand-chose pendant une bonne partie de la partie. Et ensuite, c'est une explosion d'actions bonus, de bonus divers et de points de victoire, comme dans les tavernes, mais aussi comme dans les charlatans de Belcastel.
Oui, avec une montée en puissance d'un tour à l'autre, et à la fin, ça part dans tous les sens. C'est vrai que l'analyse est intéressante.
Ouais, je trouvais ça super cool en fait le terme arcade puzzle pour décrire ce type de jeu.
C'est vrai, on reconnaît bien là le pionfesseur et ses analyses ciselées.
Et voilà, et on est arrivé au bout des commentaires.
Tout à fait, écoute, je te laisse commencer par Undo.
Ouais, excellent, comme ça je commence pour une fois.
Vas-y, je t'en
J'ai
prie.
La pression.
Mais non, ça va bien se passer.
Alors, je vais vous parler du jeu Undo, qui est un jeu de Michael Palm et Lucas Starr. Ça a été édité originellement chez Pegasus Spiel, et c'est localisé en français grâce à Gigamic. C'est illustré par Lisa Lenz et Léa Fröhlich. On y joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. C'est annoncé pour des parties d'une heure ou deux à peu près. C'est disponible chez notre partenaire Philibert au prix de 11,90€ par boîte. Et si je dis par boîte, c'est parce qu'en fait, ça se vend sous forme de petits scénarios. Donc il y a aujourd'hui 3 scénarios qui existent. C'est Ruelle Pourpre, Le Printemps des Cerisiers et Prisonnier du Passé.
Est-ce que tu as fait les 3 du coup?
J'ai fait les 3 déjà, ouais.
D'accord. Moi, j'en ai fait 2 sur les 3, donc on pourra en discuter.
Excellent, tu vas pouvoir me taquiner et vérifier que je raconte pas de bêtises.
Tout à fait. Avant de commencer... un petit rappel, tu t'es fixé un objectif, c'est ça, de faire moins de 40 minutes pour le...
Ouais, ouais. Okay. C'était, j'ai trouvé que j'étais assez long la dernière fois. Je me suis un petit peu laissé emporter. Pendant que j'enregistrais l'émission, je me disais, il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça.
C'est normal, c'est normal.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'Undo ? Alors en fait, ça, c'est un jeu d'enquête qui va vous proposer de voyager dans le temps pour essayer d'empêcher une mort violente. Donc chaque scénario tourne autour d'une mort violente. Alors on sait jamais trop si c'est un suicide, un meurtre, un accident, etc. Et les joueurs qui jouent de manière coopérative vont devoir aller dans le passé, regarder ce qui s'y passe et essayer d'influer sur les événements du passé pour éviter cette mort violente. Le jeu est proposé avec une devise qui est un jeu coopératif et très immersif qui permet à ses joueurs d'influencer le passé et de changer l'avenir.
C'est bien dit comme ça.
Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. On nous promet aussi des scénarios émouvants et extraordinaires. Donc on va aller vérifier toutes ces affirmations. Bon, alors je vais aller assez rapidement. C'est un jeu qui est très très simple en termes de mécanique, finalement.
Ouais, de règles, les règles sont vite...
Les règles sont... En fait, elles sont même portées par des cartes qui sont dans le paquet. Donc il n'y a pas de règles à part. Et grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'on a 13 grandes cartes qui vont représenter 13 moments importants pour la victime. Il y a un de ces moments-là, c'est le moment du décès. Et donc on va commencer la partie par lire les circonstances du décès, où il va y avoir déjà des petits indices sur ce qui va se passer. Alors je précise tout de suite, je vais essayer de faire des exemples, mais de jamais spoiler, bien entendu, ouais, ce qu'il y a dans ces trois scénarios. Ensuite, il y a un moment de l'avenir où on peut identifier l'influence qu'aura cette mort violente
sur les
autres personnes dans le futur. Et il y a 11 moments du passé que les joueurs vont pouvoir visiter. Alors, il y a une espèce de petite histoire comme quoi on fait partie d'une organisation du destin et on doit aller sauver ces victimes-là. Bon, à aucun moment on nous explique trop pourquoi on doit les sauver, mais au moins c'est clair, on doit faire en sorte d'empêcher ces morts violentes. À chaque fois qu'on visite un moment du passé, on va avoir un petit texte d'ambiance qui nous présente une situation, et collectivement on est placé face à un choix, et ce choix, on a trois possibilités. Donc ça va être par exemple, est-ce que on est peut-être dans l'enfance de la victime, et puis on va le dire face à un problème d'interaction sociale, est-ce que la victime s'énerve, est-ce qu'elle prend sur elle, ou est-ce que elle utilise l'humour pour se sortir de la situation. On va être amené à réfléchir à comment est-ce que on pourrait faire en sorte que la victime, par rapport à ce qu'on sait déjà de la mort violente, pourrait changer sa vie par rapport à cette décision-là.
Ouais, comment cet événement du passé influe sur sa mort, en fait.
C'est ça.
Quelle décision faut prendre pour pas empêcher la mort, mais aller dans la direction opposée aux événements qui ont entraîné sa mort.
Exactement. Et en fonction du choix que l'équipe de joueuses réalise, on va retourner une petite carte sur laquelle il y a un indicateur numérique qui va de moins 2 à plus 2 à peu près. Plus la valeur est élevée, plus on éloigne la victime de sa mort violente. Donc si on tombe sur la carte qui vaut 0, en fait on a recréé le passé, on a pris la décision que la victime avait déjà faite dans le passé. Si on fait moins 1 ou moins 2, eh ben, on pousse la victime encore plus vers son destin tragique. Et si on fait plus 1 ou plus 2, eh ben, en fait, on l'aide à éviter sa mort violente.
Et sachant, ce que tu disais, c'est des cartes dans le passé. Donc dans le passé, ça va de quelques minutes avant la mort jusqu'à plusieurs dizaines,
plusieurs
voire
milliers
centaines,
d'années,
voire milliers d'années. Ouais,
c'est ça. Effectivement, on va avoir accès à des événements qui vont toucher directement la victime, mais aussi indirectement,
tout à fait,
par rapport à des personnes qui ont compté pour elle ou des événements du passé qui ont compté pour elle. Et on va avoir une espèce de compteur, c'est-à-dire que parmi les 12 événements qu'on peut visiter, donc le 11 du passé et celui de l'avenir, on ne pourra en visiter que 9. Donc on dépense une carte à chaque fois. Et une fois qu'on a fait ces 9 décisions, ces 9 choix, on fait la somme de tous les modificateurs qu'on a obtenus Et on la compare à une petite échelle qui nous dit si on a réussi à sauver la victime de sa mort violente ou si elle continue à être face à cette fin tragique. Une fois qu'on en est là, on a le choix soit de rejouer la partie, si on n'est pas satisfait de son score ou si on veut maximiser, soit d'accéder à des cartes qui expliquent qu'en fait, quelle est la vraie solution, quelle est l'histoire, pourquoi cette victime est allée vers cette mort-là. Et aussi, on a l'indication de quels sont, parmi tous ces événements du passé, ceux qui peuvent le plus influer de manière positive pour l'éloigner de sa mort tragique. Donc ce qui donne vraiment quasiment toutes les clés d'interprétation du scénario une fois qu'on a décidé qu'on n'avait pas envie de le refaire.
C'est ça. Après, enfin, t'en parleras peut-être, mais j'ai un peu du mal à voir l'intérêt de le refaire, enfin... Moi j'en ai refait aucun et ça me paraît vraiment très facile en fait de le refaire, même si t'as pas réussi la première fois, t'as tellement d'éléments pour la seconde fois que l'intérêt est quand même limité, j'ai l'impression.
L'intérêt est limité, mais donc moi il y en a sur les trois, il y en a deux qu'on a refait.
D'accord.
L'intérêt principal que j'y vois, c'est de lutter contre la frustration.
Oui.
C'est-à-dire à un ou deux points, t'es pas arrivé à sauver la victime. En plus. Du coup, tu te dis, mais je comprends pas tout ce qui s'est vraiment passé. Il y a peut-être cette carte-là que j'ai pas pu retourner, j'ai pas pu voir cet événement-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui aurait pu me permettre
par là,
de mieux
ouais.
comprendre ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment cet élément-là qui est intéressant. C'est on peut refaire tout de suite la partie
oui.
et pas quitter la partie en étant complètement frustré, en se disant, bah là, j'ai fait zéro, c'est nul.
J'ai rien compris.
Voilà.
Ok.
Un petit dernier élément mécanique justement pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe à chaque événement il y a un élément clé sur lequel on peut obtenir un indice qui permet de mieux comprendre le contexte des différents événements du passé et on pourra en choisir 4 pendant la partie de manière à savoir mais qui est ce personnage étrange qui reste dans l'ombre et avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe.
Sachant que sur ces indices, en fait, les cartes sont retournées mais avec un mot-clé quand même qui apparaît. Il y a un mot-clé oui. à chaque fois et ce mot-clé en fait peut aussi un peu orienter le choix de la carte parce que nous en tout cas quand on choisissait l'époque où on allait, les mots-clés, en fait, peuvent t'orienter un peu dans ce choix aussi.
Ouais. C'est vrai que si, par exemple, on sait que la victime est morte d'un empoisonnement et que s'il y a un événement du passé pour lequel l'indice est écrit poison,
oui.
On se dit, tiens,
ça va donner envie d'aller voir.
Ça peut peut-être valoir le coup de savoir de quel poison il s'agit pour revenir dans le passé et faire en sorte que la victime développe une immunité à ce poison-là, par exemple. Je pense que si on devait le comparer à d'autres jeux, le fait de parler de voyage dans le temps, etc., on aurait probablement envie de le comparer à Time Stories. Mais je trouve que c'est pas tout à fait la même proposition ludique.
C'est très éloigné, ouais, mécaniquement déjà.
Parce que dans Time Stories, donc on refait la même aventure jusqu'à ce qu'on la gagne. Alors que là, on va en fait vraiment enquêter sur une mort violente et essayer de comprendre ce qui l'a provoqué pour ensuite prendre des décisions pour l'éviter. Donc on est vraiment plus proche de véritables jeux d'enquête comme détective du mois dernier ou comme Sherlock Holmes détective conseil. Avec cette approche qui est différente, c'est-à-dire qu'on va pas enquêter à partir du décès et aller voir une autopsie ou différentes personnes et leur poser des questions par rapport à ça, mais la vraie originalité c'est remontons dans le passé pour comprendre et essayer de trouver des éléments pour savoir ce qui s'est passé. Au lieu d'aller sur des lieux différents, on va dans des moments différents. Et pour valider le fait qu'on ait bien compris pourquoi cette mort violente a eu lieu, on nous demande de prendre des décisions pour essayer de l'éviter.
Alors, moi, mécaniquement, le jeu auquel je l'ai rattaché assez rapidement, c'est Black Stories. Vous savez, ces petites cartes sur lesquelles on décrit un événement qui a ni queue ni tête. Et il y a une personne, du coup, un maître du jeu qui connaît l'histoire, et les autres doivent l'interroger pour essayer de recoudre le fil de l'histoire, pour retrouver un peu le fil de l'histoire. Mmh. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une sorte de Black Stories, mais sans mettre du jeu. Et du coup, tout ce système de cartes et de passé, en fait, servait de robot pour faire le maître du jeu, en fait, comme dans Black Stories. Enfin, ça m'a vraiment fait penser assez fortement à Black Stories.
Ok. Effectivement, il y a cet aspect-là. Et puis, c'est vrai que ça m'a fait surtout penser aux nouvelles de Sherlock Holmes, donc les livres, et puis ces adaptations télévisuelles de la BBC, là, où... effectivement, il y a un événement sans queue ni tête qui apparaît et on court derrière les intuitions de Sherlock Holmes qui va rattacher ces événements-là. Mm. Alors que le spectateur ou le lecteur est complètement largué et
comprend rien,
essaie de surmonter.
C'est ça.
Alors le jeu propose donc ce que j'ai introduit, hein, c'est un jeu coopératif et très immersif qui nous propose d'aller influencer le passé. Là, je suis aussi un petit peu pas d'accord, voire pas d'accord du tout. C'est-à-dire que le jeu va même vous dire à la fin, en fait, toutes les décisions que vous avez prises vont avoir lieu au même moment. Alors là, j'ai un petit peu un problème d'interprétation de comment est-ce que je peux aller dans le passé et faire des choses au même moment que ce qui se passe aujourd'hui ou dans le futur.
Oui, et puis moi, ça m'a gêné aussi, ça commence à... Comment, même si c'est au même moment, comment il n'y a pas une interaction entre ces différentes...
Ouais, parce que vraiment, ce à quoi je m'attendais, c'est que, bon, pas forcément pour tous les moments du passé, mais qu'au moins pour certains, ça soit des moments tellement importants que, par exemple, certaines cartes qu'on n'a pas encore visitées, on peut les changer. Et on aurait pu avoir une enveloppe scellée. Et puis, s'il y a un événement vraiment important du passé dans la jeunesse de la victime, on prend une telle décision, alors on aurait une petite indication qui dit la carte 9, remplacez la carte de base et prenez une carte spéciale qui marquerait vraiment et narrativement l'influence que les joueuses ont eue dans le passé.
Moi, dans un des scénarios que j'ai fait, ça m'a vraiment gêné aussi, cette astuce de dire que tout se passe en même temps, parce qu'en fait, il y a des événements dans le passé, si tu les changes, et de manière réelle, si tu changes cette décision-là, en fait, plus rien derrière ne peut se passer. Tu vois, il y a vraiment des décisions qui peuvent... Alors là, ça va juste rajouter des points, mais en vrai, s'il y a une vraie ligne temporelle, cette décision-là, si tu la prends, si ça se passe, et en fait, plus rien derrière ne peut se passer. Enfin, tous les autres événements n'ont même plus lieu, tu vois. Et c'est un côté un peu, effectivement, un peu dérangeant d'un point de vue logique,
en fait.
C'est un
peu frustrant, oui. Ouais. Parce que la récompense, on l'a, hein, en tant que joueur... On a ce plus 2 qui nous dit « Ah, cool, j'ai vraiment bien compris et je suis allé dans le bon sens. Par contre, si ça se trouve, on a fait en sorte que les parents de la victime ne mouraient pas dans sa tendre jeunesse, mais beaucoup plus tard, ce qui aurait dû vraiment influencer drastiquement l'histoire de au moins de cette victime, voire d'autres personnes tout autour. Et du coup, là, c'est vrai que on n'est vraiment, vraiment pas dans un jeu qui joue sur les voyages dans le temps, les paradoxes temporels, etc. On est vraiment dans un jeu d'enquête. C'est un petit peu ce qui me gêne dans le positionnement marketing de ce jeu-là. On parle beaucoup de cette influence qu'on a dans le passé, mais en fait, c'est vraiment que un jeu d'enquête.
Oui. Oui, c'est vraiment un prétexte pour aller à d'autres époques et il y a le côté changer des événements, mais en fait ça c'est juste si t'as compris ou t'as pas compris, t'as des points ou t'as pas de points, et si t'as vraiment compris à l'envers, t'as des points négatifs, quoi. Mais effectivement, il n'y a pas ce côté
retour vers le futur,
ligne temporelle, le retour vers le futur, ouais. C'est ça,
ouais. Par contre, en tant que jeu d'enquête, moi je trouve qu'il est bien bien réalisé, parce que les informations sont riches. C'est les informations qu'on a quand on retourne les cartes et quand on lit les événements ou les indices. On a des informations, par contre elles sont souvent ambiguës.
Ouais.
Il y a des moments du passé où on parle de personnes, et si on en est au début de l'enquête, en fait, on ne sait pas vraiment si on parle de la victime ou de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément à chaque fois bien explicité. Il y a des événements comme ça qui parlent de choses qui paraissent n'avoir rien à voir avec ce qu'on a compris jusqu'alors de l'histoire. Et en fait, c'est pas une fausse route, c'est pas une fausse piste. C'est véritablement que voilà, il y a encore quelque chose à aller chercher. Peut-être que c'est pas un assassinat, peut-être que c'est un suicide, mise en scène, etc. Et du coup, il y a vraiment une excellente gestion de l'ambiguïté des informations qui sont transmises aux joueuses, qui fait que on reste en très longtemps sur un manque de certitude par rapport à l'histoire qui s'est déroulée.
Ouais, tout à fait.
Ça a été aussi votre expérience ?
Oui, alors moi je mitigerais un petit peu, j'ai trouvé ça, effectivement c'est intéressant le côté très ambigu et le côté il faut réussir à interpréter, parce que je pense que même si tu lis toutes les cartes, t'as pas toute l'histoire dans les détails, enfin par rapport à ce que tu vas lire après dans l'explication, ouais. Il y a plein de choses qui sont vraiment sous-jacentes et toujours un peu ambiguës, que tu déduis mais qui seront jamais écrites clairement, donc ça c'est très intéressant. Par contre, là où je suis un peu plus mitigé, c'est que déjà, si tu retournes au début de ta partie, parce que tu sais pas vraiment où aller, et si au début tu retournes des cartes qui sont des +2, enfin qui sont très impactantes dans le passé de la victime, et ben ça va être un peu du hasard, parce que comme t'as pas tous les éléments, ben tu vas répondre à un truc, voilà. Et du coup ça peut vraiment changer, parce qu'il faut savoir qu'il y a des cartes qui changent beaucoup, donc qui ont des +2, -2, 0, et il y en a pas mal qui ont des +1, -1, 0, donc qui changent un peu moins le futur, enfin l'événement tragique de la victime. Et du coup, effectivement, si tu tombes dès le début sur des cartes qui sont très impactantes dans sa mort, et que t'as très peu d'éléments finalement, bah ça va. Ce côté hasard de choix peut un peu. Enfin voilà, ça impacte directement ton score final.
Oui, nous on a trouvé ça particulièrement frustrant en fait et c'est grosso modo pendant au moins la première moitié de la partie. Le choix des dates est
pas trop guidé, quoi. Ça manque de guidage, d'indices pour s'orienter plutôt d'abord là ou d'abord là pour ouais.
Et pareil, au moins pendant la première moitié de la partie, les décisions, il y en a certaines qui peuvent paraître évidentes, mais il y en a beaucoup où ben en fait on va prendre une décision un peu au hasard. C'est en fonction du résultat numérique où on se dit ah j'ai fait zéro, quand même ça indique plutôt que le meurtrier ce soit telle personne.
Oui.
Et donc on va utiliser ces erreurs qu'on va faire. Alors du coup, ouais, on est quasiment sûr de pas faire des méga scores, mais ça sert d'interprétation pour savoir ce qui s'est passé. Mais effectivement, j'ai trouvé ça aussi pas mal frustrant. Il faut le savoir quand on rentre dans une partie de Undo, que la première moitié de la partie
c'est un peu à tâtons, quoi.
Voilà, il faut accepter ce manque d'informations là. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les jeux sont basés sur on va sauver telle personne d'une mort violente, mais à aucun moment on sait pourquoi on a choisi cette personne là, quoi. Est-ce qu'elle est vraiment importante dans l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'elle va découvrir le vaccin contre la rage? On sait rien du tout. Ça m'a paru un petit peu artificiel à certains moments.
Oui, et puis si t'avais vraiment le pouvoir de voyager dans le passé, tu pourrais assez vite tu pourrais assez vite empêcher tout ça de manière différente, mais bon, après ça c'est vraiment l'enveloppe. A contrario, j'ai trouvé aussi que quand tu avais vraiment assez bien défini ou assez bien trouvé pourquoi elle était morte et ce qu'il fallait un peu, dans quel sens fallait aller pour empêcher sa mort, j'ai trouvé que les choix du coup étaient assez c'était à chaque fois le choix le plus évident. Enfin, une fois que t'as un peu identifié le truc, dans les trois choix, une fois que t'as déterminé vraiment la cause de la mort et pourquoi, il y a pas vraiment d'hésitation dans les choix, quoi. C'est vraiment, c'est des trucs très, c'est très évident après.
Ouais. Alors du coup, j'ai d'ailleurs trouvé qu'une des trois aventures, un des trois scénarios, était vraiment simple par rapport à ça. C'est-à-dire que très rapidement, quelles que soient les décisions qu'on prend, on comprend pourquoi la victime est morte de cette manière-là. Et du coup, on déroule assez rapidement. Alors Du coup, c'est très accessible. Là.
On en discutera après l'enregistrement pour pas spoiler, du coup, voir si, c'est, si on a trouvé ça sur le même scénario.
Si c'est le même scénario qui nous a fait ça, ouais, ça marche.
Mais ouais, du coup, il y a une première moitié de partie où t'es dans le flou et c'est un peu au hasard. Et une fois que t'as vraiment réussi à recoller les morceaux, bah finalement, ça devient presque un peu trop facile de prendre les bons choix, quoi. Même si certaines cartes restent suffisamment ambiguës pour que bon, tu te dises, bon, là, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce choix-là va vraiment influer, donc tu fais un peu au hasard. Mais c'est souvent des plus 1 ou moins 1, mais sur les cartes vraiment impactantes, si tu les as après avoir vraiment reconstitué le puzzle, bah, c'est toujours le choix le plus évident, quoi. Il n'y a pas trop de subtilité dans les choix, en fait.
Oui. Je vais passer au point suivant que je voulais aborder. Un des autres éléments de présentation du jeu Undo, c'est des scénarios émouvants. Et là, au contraire, je pense que c'est effectivement assez correct, assez légitime d'en parler de cette manière-là. Alors déjà, à chaque fois, on parle de mort violente. C'est vrai que moi, au début, ça m'a un petit peu dérangé parce que, comme tout était très simple, je me suis dit « cool ». Éventuellement, ça peut faire un jeu familial, mais on parle à chaque fois de mort violente, et quand on se pose des questions de mort violente, ben, on va réfléchir sur des meurtres, des assassinats,
des suicides,
des dépressions, des suicides, etc. Mm. Donc, malgré l'accessibilité du jeu, c'est vraiment... Ils disent à partir de 10 ans, je rajouterai quand même presque quelques années quand même là-dessus.
Ouais.
Par contre, effectivement, on se pose des questions, je trouve, émouvantes par rapport au destin de ces victimes. Parce que pendant longtemps, on se pose la question de comment ils sont morts, et puis ensuite, très rapidement, pourquoi. Et ça s'enrichit de... Bon, alors j'ai peut-être une intuition sur pourquoi ils sont morts. Maintenant, comment est-ce que je vais faire en sorte pour que son passé ne l'amène pas vers ce destin tragique ? Si c'est un problème de relation avec les autres, comment est-ce que je fais pour qu'il soit plus à l'aise ? Si c'est un problème d'argent de confrontation, de lutte de classe, etc. Comment est-ce que je peux faire en sorte que cette personne-là prenne des décisions plus sensées par rapport à ses revenus ? Et c'est vrai qu'il y a une dose d'intimité qui est vraiment intéressante et qui est bien gérée dans les trois scénarios.
Je suis d'accord.
Excellent. Petit point aussi, donc je vais juste parler des trois scénarios. Donc il y a trois scénarios aujourd'hui disponibles, pardon. Il y en a un qui s'appelle Ruelle Pourpre, qui se déroule à Chicago dans les années 30, dont le décès a lieu dans les années 30. Il y en a un qui se déroule au début des années 2000 au Japon. Et il y en a un qui se déroule en Allemagne à la moitié du 20e siècle. Alors déjà, c'est un bon point, c'est que c'est des ambiances variées, en tout cas c'est des sujets variés.
Ouais, tout à fait.
Il y a quelque chose qui est notable, je pense, c'est que il faut quand même avoir un petit niveau d'histoire générale qui soit non nul. C'est-à-dire que s'il y avait eu un événement sur lequel il y a écrit 14 juillet 1789, il faut savoir que c'est la prise de la Bastille, hein, et l'événement sera probablement très lié à ça.
Et je dirais en histoire et en géographie aussi, puisqu'il y a différents lieux qui sont liés, mais du coup, faut savoir un peu les placer sur une carte pour imaginer comment ils peuvent être liés, quoi.
C'est vrai. Et d'autant plus que voilà, il n'y a pas d'aide particulière. À aucun moment on prend la joueuse par la main en lui disant attention, en 1914 il s'est passé quelque chose entre la France et l'Allemagne. Non. Donc il y a aussi cette petite touche là. C'est pas très gênant parce que c'est vraiment des événements plutôt très connus de l'histoire dont on parle. Ou alors, si on est un petit peu perdu par rapport à ça, il y a les indices qui servent justement de palliatif et qui permettent d'identifier que effectivement le 14 juillet 1789, il y a eu la prise de la Bastille. Quoi. C'est pas n'importe quelle forteresse dont on parle.
C'est ça.
Petit point. Donc la boîte propose de jouer entre 2 et 6 joueurs. Effectivement, c'est complètement coopératif. Par rapport à l'ambiguïté des textes, effectivement, je pense qu'il est important de pas jouer tout seul. C'est bien d'avoir plusieurs cerveaux pour essayer d'interpréter et comprendre ce qui se passe. Mmh. Et c'est bien aussi d'essayer de soit de verbaliser ce qu'on comprend de ce qui se passe pour essayer de voir si ça a une certaine logique ou pas. On a joué de nous à 2 et à 5. Bon, c'est vrai qu'à 5... La dynamique de groupe est aussi importante, hein. Il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'à 5, ben, on n'a pas tous, on va pas dire grand-chose tous en même temps. Et c'est plus compliqué d'arriver sur un point de vue agréé par tout le monde.
Après, dans la règle aussi, quand t'es plusieurs, là, ils conseillent de donner un responsable à chaque tour différent pour le choix de la carte, en fait, parce que comme tu peux aller dans le passé à n'importe quelle époque, il y a un moment, les discussions autour de où on va, ça peut, quand t'es beaucoup de joueurs, ça peut durer des heures. Donc là, ils conseillent, non mais nous on joue à 4, tu vois, et des fois, bon, savoir si on va loin dans le passé ou quelques minutes avant, bah, surtout dans la première moitié, comme tu le dis, on sait pas trop. Donc là, ils conseillent d'avoir un joueur principal tournant. Et donc à chaque carte différente, ben c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision finale de dire bon ben on va voir cette carte là. Même si au final tu vois pratiquement toutes les cartes,
ouais,
sauf 3, l'ordre dans lequel tu les vois a quand même une certaine importance sur ta déduction.
Ouais. Ce qui va être important, c'est aussi de noter que finalement on voit quasiment toutes les cartes, hein, comme tu le dis. C'est-à-dire que au début on peut avoir la trouille de pas tout voir et de se dire il va me manquer la moitié de l'histoire. Bon, on voit quasiment tout. C'est pas aussi frustrant que ça quand même. Hein. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, donc il y a que ces 3 scénarios-là qui existent. On voit sur les sites que c'est marketé, c'est communiqué comme étant la première trilogie d'histoire. Donc j'ai pas eu d'informations particulières sur de nouveaux scénarios qui arriveraient. Ça risque aussi de dépendre du nombre de ventes de cette première trilogie. Et il faut aussi noter, voilà, sur les salons, sur les conventions, il y a une mini aventure qui est disponible pour justement pour expérimenter comment se joue le jeu et appréhender ces mécanismes.
Une petite démo, quoi.
Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour et peut-être même que j'ai respecté mon ambition de 40 minutes.
Assez largement, hein. T'as encore 5 bonnes minutes.
Ah bah c'est super, c'est juste assez ce qui m'est nécessaire pour émettre un avis final et définitif de la part de Twin sur Undo. Alors, bon, déjà, c'est dommage que ça soit pas un vrai jeu de paradoxe temporel et de retour vers le futur. Bon, c'est un peu le Graal, hein, après lequel on est nombreux à courir.
Je sais pas si t'as fait le dernier scénario de la dernière boîte d'Unlock.
Ah non.
Alors,
celui avec les papillons.
Ouais, je te conseille de le faire parce que je trouve ça très réussi en termes de voyage dans le temps. Il est plutôt très très cool là-dessus.
Ok.
Sans spoiler.
On en parlera après l'enregistrement.
Ça marche.
Par contre, effectivement, c'est un vrai jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête subtil et qui marche parce que l'ambiguïté des informations qui est donnée est vraiment très bien gérée. C'est un vrai jeu d'enquête parce que c'est frustrant et que quand on fait une enquête, on veut être frustré et on veut comprendre ce qui s'est passé et essayer de se mesurer à ce puzzle-là. Pour moi, c'est pas un jeu qui est particulièrement difficile. On en a parlé la dernière fois avec Cyrus. Voilà, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est un jeu avec une difficulté supérieure. Là, c'est une difficulté intermédiaire. Et pour le coup, je trouve que c'est justement un très bon jeu pour les assos, les ludothèques, qui s'adressent pas que à des joueurs ultra vétérans qui ont tout lu et qui regardent toutes les séries, etc. Comme c'est coopératif, voilà, on a cet élément-là qui nous permet, et aussi, comme on peut rejouer sa partie si on a fait un score trop mauvais, si on n'a pas sauvé la victime, cette difficulté n'est pas trop élevée, donc je pense que c'est un excellent jeu pour un public qui cherche une difficulté intermédiaire d'enquête. Et puis c'est aussi un jeu que voilà qui va faire donc je pense que la première partie qu'on fait elle fait entre 45 et 60 minutes. Refaire une partie derrière voilà c'est 15-20 minutes pas plus. Donc pour un jeu à 12€ on est vraiment bien surtout si voilà on peut ensuite le passer à des amis ou si ça tourne dans une asso c'est vraiment excellent en termes de positionnement de prix. Voilà, est-ce que tu veux rajouter toi un petit avis
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi ce qui je trouve la mécanique et le concept la manière de jouer en fait plutôt intéressante. Au niveau jeu d'enquête, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop vu. Moi, je te dis, je rapproche assez d'un Black Stories, mais plutôt qu'avoir quelqu'un qui sait la fin de l'histoire, t'as plusieurs cartes et tu vas découvrir ça au fur et à mesure avec ce ouais. système de cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, les deux déceptions que j'ai, c'est un peu comme toi. Enfin, il y en a une qui est comme toi. C'est vraiment ce côté, cette enveloppe de voyage dans le temps qui finalement, on ressent pas du tout et c'est pas vraiment présent dans le jeu. Tu vas voir des événements du passé, tu interagis dessus, mais enfin, ça n'a vraiment pas une sensation de changer les choses, quoi.
Oui, oui.
À l'instant T. Et le deuxième point, mais qui rejoint un peu ça, c'est un peu le système de scoring, en fait, qui finalement est assez, assez factice. Et, enfin, après, tu sais juste si tu as sauvé ou pas la victime, mais finalement, tout ça, c'est assez annexe, puisque vraiment, le cœur du jeu, c'est vraiment de reconstituer l'histoire, d'essayer de comprendre pourquoi. Et le scoring, en fait, est assez accessoire, je trouve, et voire un peu aléatoire, des fois, comme je le disais, si tu commences par des cartes qui sont très importantes pour le changement, et que tu sais pas du tout de quoi il s'agit, et que tu fais, tu vois, des -2 dès le départ, en fait, c'est très dur d'atteindre après le score pour sauver la victime. Donc ça, je trouve ouais. ça un peu
effectivement, ouais.
artificiel, quoi.
Eh oui.
Mais sinon, effectivement, les histoires, la manière d'appréhender les éléments, de les apprendre au fur et à mesure, tout ça, c'est vachement intéressant. Le mécanisme est vachement intéressant. Et les histoires sont plutôt sympas, ouais.
Ouais, effectivement, c'est autant c'est pas trop immersif, mais c'est vrai que c'est émouvant. Le terme est effectivement bien choisi pour décrire cette expérience-là.
Tout à fait. Eh bien, il te reste... La fiche signalétique.
Donc, Undo, c'est un jeu de Michael Palm et Lucas Zarr. C'est édité par Pegasus Spiel, distribué et localisé en français par Gigamic. C'est un jeu qui est illustré par Lisa Lenz et Léa Fröhlich. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, voire même plutôt 12. Pour des parties de 1 ou 2 heures, bon, c'est plutôt autour d'une heure. C'est en ce moment disponible chez notre partenaire Philibert au prix de 11,90€. Il existe aujourd'hui 3 scénarios, Ruelle Pourpre, Le Printemps des Cerisiers et Prisonnier du Passé.
Ben c'est parfait, merci beaucoup Twin.
Il vous en prie.
Bon maintenant je vais essayer de tenir aussi la cadence et la durée. Hein. On va passer à Vilainus.
Allez, c'est un défi.
Alors, Vilainus, bah déjà on va passer un peu de temps sur la fiche signalétique parce qu'il y a quelques trucs à dire. Donc, Vilainus, c'est un jeu de Prospero Hall qui en fait n'est pas un auteur, c'est pas un auteur
qui s'appelle Prospero.
En fait, il s'agit d'un studio de développement de jeux qui est basé à Seattle, aux États-Unis. Donc, ils sont, c'est une boîte où ils sont pas mal de personnes. On peut regarder sur leur site internet, on mettra le lien. Mais dans l'équipe, il y a 4 ou 5 game designers et après, il y a énormément de chargés de développement, de chargés de communication. Enfin,
d'accord.
Voilà, c'est une grosse machine. On leur doit notamment Kero chez Hurricane Games.
Oui.
Où dans un futur un peu post-apocalyptique où le kérosène est devenu une denrée rare, etc. Donc ça, c'est signé du même studio de développement. Et ils ont aussi notamment participé à Harry Potter Hogwarts Battle, le jeu de cartes. Donc là, il y a plusieurs auteurs qui sont cités et apparemment, le studio a aussi un peu travaillé dessus.
D'accord.
Donc ils bossent beaucoup sur des licences, a priori. D'ailleurs, l'éditeur, pour continuer la fiche signalétique, c'est Wonderforge, qui est aussi un éditeur américain, et qui fait pas que du jeu de société comme on l'entend nous, qui fait aussi du jeu au sens large, avec pas mal d'exploitation de licences pour des jeux un peu type supermarché, des memories, des trucs
des jeux joués.
Ouais, c'est plus des boîtes de jeux, tu vois, mais avec des jeux un peu, enfin, ça peut être des jeux dits de société, mais vraiment des jeux au sens large, comme on peut retrouver dans tous nos rayons à Noël de supermarché. Des jeux de mime, des jeux type Way Charlie, mais avec plein de licences. Ils ont les licences Marvel, Disney, tout un tas de choses comme ça. Et donc c'est Wonderforge, et ils sont associés pour ce jeu-là, pour Villainous, à Ravensburger, mais essentiellement pour la distribution en Europe, je crois.
Ok.
Pareil pour les illustrations, on a zéro information, zéro crédit d'illustration. Donc là, on est sur
Ce sont les illustrations Disney, non ?
Alors voilà, on est sur un jeu Disney, donc avec la licence Disney, les illustrations Disney, mais a priori, c'est pas des illustrations qui sont directement issues des dessins animés. Enfin, on va expliquer après ce que c'est Villainous pour ceux qui connaissent pas, mais en gros, c'est avec des méchants du monde de l'univers Disney.
Mais c'est pas forcément des illustrations qui viennent des dessins animés dont on parle.
Voilà, ça vient pas directement des dessins animés. Il y a des illustrations qui sont originales, en fait, des nouvelles illustrations qui utilisent tous ces personnages de dessins animés avec la bonne charte graphique du dessin animé, si on peut dire. Ça respecte parfaitement les œuvres. Mais je pense que c'est des illustrations originales. Mais du coup, il y a aucun artiste qui est crédité. Donc, on va dire que c'est illustré par Disney.
D'accord, ouais.
Voilà, donc déjà pour la fiche signalétique qui est un petit peu plus compliquée que d'habitude, c'est pas auteur, illustrateur, éditeur, c'est...
Il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière ça.
Studio de développement, illustrateur, c'est Disney, etc. Donc c'est pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties qui sont indiquées de 30 minutes à 1 heure. Mais bon, là, je suis déjà pas trop d'accord. Moi, je dirais plutôt qu'il faut compter entre 20 et 30 minutes par joueur.
Donc,
là, on voit que si on joue à 6,
c'est 3 heures, quoi.
Amener des parties bien plus longues, je pense. J'ai pas joué à 6, mais bon, je pense quand même que comme c'est du tour par tour et que chaque joueur joue l'un après l'autre, ça allonge quand même pas mal la partie de jouer à 5 ou 6.
Ok.
Donc, pour en venir au principe, parce que là, j'ai déjà un peu spoilé des trucs, mais... Le principe est assez simple, c'est un jeu où vous incarnez des méchants, des grands méchants de l'univers de Disney.
La classe.
Et en fait, où vous devez réaliser l'objectif ou les dessins qu'ils n'ont jamais réussi à réaliser dans les dessins animés, quoi.
D'accord, les vrais vrais méchants, quoi.
Voilà, les vrais méchants. Il y a Jafar, par exemple, l'objectif pour la personne qui va jouer Jafar, c'est de récupérer la lampe, d'hypnotiser le génie et voilà, de prendre le pouvoir, quoi. C'est vraiment...
Okay.
L'objectif, c'est de faire ce que les méchants n'ont pas réussi à faire dans leur dessin animé. Donc ça, déjà, je trouve ça assez fun, de prendre le parti de... pour une fois, on va pas jouer les héros qui gagnent toujours à la fin. On va jouer les méchants et on va essayer d'être le plus méchant des méchants, quoi.
Mais est-ce qu'il y a le meilleur méchant de Disney, c'est-à-dire la sorcière poulpe de la petite sirène ?
Oui, elle y est.
Ah, génial.
Donc dans la boîte de base, on verra après qu'il y a des extensions, mais dans la boîte de base, il y a 6 méchants qui sont relativement iconiques en fait de l'univers Disney. On a le prince Jean de Robin des Bois qui veut vraiment s'enrichir. On a Jafar de Aladdin qui veut devenir calife à la place du calife, on va dire. Il y a le capitaine Crochet de Peter Pan. Son objectif, c'est de tuer Peter Pan. Hein. C'est un peu violent, mais c'est quand même ça son objectif. Il y a Ursula, donc la fameuse sorcière poulpe de la petite sirène, qui veut prendre la place, qui veut récupérer le trident et la couronne de Poséidon. C'est Poséidon ou c'est... Oui, je pense que c'est Poséidon, le père de...
Oui.
Non, Triton, il s'appelle Triton, je crois, mais...
Ok. Enfin,
bref, c'est le roi des océans. Il y a la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles.
Ah, classe.
Voilà, donc elle, son objectif, c'est un peu bizarre, mais c'est de faire un coup royal au croquet. Voilà, c'est de faire le coup parfait au croquet. Et on a enfin Maléfique, de La Belle au Bois Dormant, donc voilà, un des personnages les plus iconiques qui maintenant a des films dédiés à ce personnage.
D'accord.
Qui elle, doit maudire, en fait, le royaume, mettre des malédictions sur tous les lieux du royaume.
On est bien dans l'univers des dessins animés, c'est-à-dire que c'est pas les films Maléfique ou
Alice. Non,
tout
à fait. C'est vraiment l'univers des dessins animés avec les illustrations des dessins animés respectifs.
Ça marche.
Donc comment ça se joue ? T'y as jamais joué, c'est ça ?
Jamais joué.
Ok.
Donc je me pose la question là parce que effectivement à la maison, j'ai la nouvelle génération qui pousse à la roue. Et en plus, moi, je me dis, jouer des méchants, ça, c'est quand même très
c'est
cool.
Classe. Je vais t'expliquer comment ça se passe, du coup. Donc, chaque personnage chaque joueur va jouer un des personnages, un de ces six personnages. Et donc, chaque personnage dispose d'un plateau spécifique avec quatre lieux dessus. Il y a quatre lieux différents. Il dispose d'un paquet de cartes qui sera son deck méchant. Donc, ça va être ses alliés, ses actions qu'il va pouvoir faire, en fait, pour réaliser son objectif. Il y a un deck de cartes fatalité aussi. Donc ça, c'est un deck de cartes qui est propre au personnage, mais que lui-même va pas jouer. Ça va plutôt être les autres, ses adversaires qui vont piocher dans ce paquet-là pour lui mettre un peu des crasses, pour justement que les héros quand même essayent de l'empêcher de réaliser ses mauvaises intentions.
Ok.
Tu as aussi un petit livret objectif pour un peu sur chaque plateau, en fait, l'objectif de chaque personnage est rappelé, mais le livret, en fait, t'explique un peu comment réaliser cet objectif, qu'est-ce que tu dois faire, dans quel ordre, pour t'aider un petit peu à vraiment comprendre comment tu dois réaliser ton objectif. Il y a beaucoup plus de détails, donc chaque personnage a ce petit livret. Et t'as une petite figurine. Alors les figurines sont magnifiques, je trouve. Ça représente en fait le personnage, mais c'est une silhouette assez stylisée. On mettra des photos. C'est pas c'est pas le personnage en lui-même. C'est vraiment une espèce de symbologie du personnage qui est assez assez bien fichu. Donc à chaque tour, c'est assez simple. Tu commences la partie, ton personnage est sur le premier lieu de ton plateau. Et à chaque tour, un peu à la manière de Scythe, mais je crois qu'il y a d'autres jeux aussi qui se jouent comme ça, tu dois déplacer ta figurine sur un autre lieu. Tu peux jamais faire l'action du lieu où t'es. Et donc, déplacer sur un autre lieu, ben, chaque lieu dispose d'un certain nombre d'actions que tu vas pouvoir faire pour essayer de réaliser ton objectif. Donc voilà, comme Scythe, à chaque tour, tu déplaces ta figurine sur un autre lieu. Et ça va activer des actions de ce lieu-là.
Et donc chaque méchant a ses lieux, voilà, qui sont personnels liés, et avec des actions qui n'a que lui.
Alors, je vais expliquer les actions, mais les actions, en fait, c'est des actions un peu génériques. Il y a différents types d'actions, mais ouais. Effectivement, la configuration des actions sur chaque lieu est bien spécifique à chaque lieu. C'est-à-dire que voilà, il y a quatre actions généralement par lieu, et donc les actions sont communes un peu à tous les joueurs, mais la configuration des actions sur chaque lieu est spécifique au lieu, en fait. Comme je le dis, donc on se déplace, on fait les actions, il y en a 4 généralement par lieu, et il y a 8 actions différentes en tout, qui peuvent être réparties sur les lieux, en fait. Un lieu peut avoir 4 actions différentes, ou 2 fois 2 actions similaires. Enfin, voilà. Les actions sont assez simples, donc c'est vraiment les actions de base du jeu, mais qui vont être au cœur du jeu. La première action, c'est gagner des jetons, un ou plusieurs jetons pouvoir. Donc les jetons pouvoir, c'est vraiment la monnaie du jeu. C'est ce qui va nous servir à payer des cartes, ou activer des actions. C'est vraiment une sorte de monnaie qu'on va devoir dépenser après. D'accord. Pour activer des cartes. Et donc, c'est important d'en récupérer. On commence avec quelques jetons actions au début de la partie, et après, il va falloir en récupérer pour pouvoir justement jouer des cartes. Donc ça, c'est une action possible. Ensuite, il y a une action, jouer une carte de sa main. Donc chaque joueur va piocher à chaque fois 4 cartes de son deck méchant dans sa main. Donc on a une main de 4 cartes. Donc là, c'est vraiment là où va se faire la différence entre les personnages, c'est que les decks de cartes vont être très spécifiques à chaque personnage. Mais cependant, il y a quand même des grandes familles de cartes qui sont communes à tous les personnages. La première famille, c'est les cartes alliées. Donc ça, c'est des alliés aux méchants qu'on va pouvoir poser sur des lieux, en fait, et qui vont avoir une force et parfois une capacité spéciale. Et ils vont nous servir surtout à essayer de contrer les héros qu'on va nous envoyer.
D'accord.
Les cartes fatalité qu'on va nous envoyer, ça va nous mettre des héros sur notre plateau, et ces alliés vont permettre d'éliminer ou de contrôler un peu les héros qu'on nous envoie.
D'accord. Donc le capitaine Crochet, il peut recruter Mouche, par exemple.
Voilà, tout à fait. Il y a Mouche, il y a des pirates, il y a tout un tas de pirates différents. Voilà, le prince Jean, il a le shérif de Sherwood. Enfin, tous les personnages iconiques du côté des méchants sont représentés avec des cartes alliées. Après, il y a des méchants plus génériques. Jafar, il a Yago, et puis après, il a tout un tas de bandits plus génériques, quoi, mais qui peuvent le servir. Deuxième type de carte, c'est les cartes objets. Donc les cartes objets, souvent, c'est soit un objet qu'on va mettre sur un lieu qui va rajouter une action à ce lieu, soit c'est des objets qui vont s'attacher à des alliés pour leur donner plus de force ou un pouvoir spécifique. On a des cartes événements qui sont des cartes vraiment one shot qu'on va jouer et qui vont nous permettre de faire une action spécifique. Toutes ces cartes ont souvent un coût, comme je l'ai dit, qu'il faut payer en
jetons
pouvoir.
De pouvoir là.
Et enfin, il y a le dernier type de cartes, c'est les cartes conditions. Donc ça, c'est des cartes qu'on ne peut pas jouer à son propre tour de jeu, et qui vont devoir être jouées quand un autre joueur fait une certaine action ou a un certain nombre, enfin, ou une condition est remplie en fait. Par exemple, il y a une carte qui dit dès qu'un adversaire, un joueur adverse a 4 alliés sur son plateau, vous pouvez jouer cette carte. Donc dès que ça arrive, tu peux jouer la carte et ça va te permettre d'avoir en fait une action en plus en dehors de ton tour, qui te permet de gagner un peu de temps souvent sur ton objectif. Donc ça, c'est la deuxième action possible, c'est une des actions les plus importantes, c'est jouer une carte, parce que c'est en jouant des cartes qu'on va faire un certain nombre, qu'on va faire avancer le plus généralement notre objectif. Mmh. Ensuite, la troisième action possible, c'est activer une capacité d'une carte déjà posée. Donc là, il y a des cartes qu'on va poser et qu'on va pouvoir activer. Donc là, il y a une action spécifique pour activer des cartes.
D'accord.
Sur notre plateau.
Je peux activer Mouche pour qu'il aille faire quelque chose.
Par exemple, tout à fait. Donc là, tu payes souvent un coût aussi quand tu actives une carte. Mais c'est une des actions possibles qui sont disponibles sur ton plateau. Ensuite, tu as l'action Fatalité. Donc ça, c'est l'action qui va entraîner.
Qui n'a rien à voir avec Mortal Kombat.
Non, c'est vraiment l'action qui va générer de l'interaction entre le joueur. Donc quand tu as l'action Fatalité, tu peux choisir chez quel adversaire tu vas aller mettre... piocher en fait, tu vas piocher deux cartes dans son fameux paquet fatalité, que lui ne peut pas jouer, mais il a un paquet fatalité lié à son personnage. Tu vas piocher deux cartes, et là tu vas choisir laquelle tu vas lui mettre dans la tronche. Donc là il y a plusieurs types de cartes. Bien sûr il y a les héros. Donc les héros, c'est des gentils que tu vas mettre sur son plateau. Et en fait, toutes tes cartes, tous tes alliés à toi, en fait, tu les places en dessous de ton plateau. Et les héros qui sont mis par les autres joueurs se placent au-dessus de ton plateau. Et en fait se placent sur ton plateau, donc vont cacher des actions de...
D'accord. Tant que Peter Pan est dans un lieu particulier, voilà. Je fais moins d'actions grâce à ce lieu-là.
C'est ça. Tant que Peter Pan est chez les Indiens, ben, le lieu chez les Indiens, il n'y a plus que 2 actions sur 4 qui sont disponibles.
Ah, c'est malin.
Et du coup, ben, pour m'en débarrasser, je vais devoir envoyer des alliés pour l'éliminer.
Mmh. Et oui.
Voilà, donc ça, c'est les héros, qui sont un peu l'équivalent des alliés, mais qui viennent embêter les gens. Après, on trouve aussi des cartes objets ou des cartes événements qui marchent de la même manière que pour tes cartes méchants, mais qui vont avoir un effet, on va dire, pour embêter l'adversaire. Typiquement, il va devoir retirer un allié de son plateau ou ce genre de choses. C'est des cartes. Les cartes objets peuvent être attachées aussi, bien sûr, à des héros pour augmenter leur pouvoir. Par exemple, il y a des cartes héros. Le prince Jean, en fait, son objectif, c'est de collecter le plus de jetons pouvoir possible. Il veut être riche, voilà, donc il doit atteindre 20 jetons pouvoir. Et donc, il y a des objets qui permettent à des héros de récupérer, de lui voler, en fait, des pièces. Et de les garder, de les stocker sur la carte héros jusqu'à que le héros soit éliminé. Et dans ce cas, les pièces reviennent au prince Jean.
Parce que forcément, Robin des Bois, il vole aux riches. Et...
pour donner aux pauvres, tout à fait.
Voilà.
On y reviendra, mais thématiquement, c'est plutôt vraiment bien fichu.
Excellent.
Voilà, donc ça c'est les cartes fatalité, c'est vraiment des cartes, c'est les gentils en fait qu'on vient placer chez des adversaires pour les retarder dans leur objectif, voire les empêcher de réaliser leurs objectifs. Donc là on avait les 4 premières actions et il y a 4 autres actions qui sont un peu plus basiques, on va dire. Il y a déplacer un héros ou un objet, enfin un allié ou un objet vers un lieu voisin. Puisque comme on place toujours l'allié sur le lieu où on a fait l'action, mais parfois on veut qu'il y a un héros sur un autre lieu, donc on veut déplacer nos alliés pour aller l'embêter.
Okay.
Donc on va pouvoir comme ça déplacer nos alliés sur un lieu adjacent. Et il y a pas mal d'objectifs aussi qui sont liés à ça, qui sont liés à des déplacements d'objets. Genre typiquement dans Jafar, chez Aladdin, il récupère la lampe dans la caverne aux merveilles, mais lui il veut l'amener au palais. Donc en fait, quand on va trouver la lampe, parce qu'il y a un mécanique pour trouver la lampe, elle va apparaître, elle va popper en fait sur un lieu particulier. Il va falloir réussir à la déplacer de 3 lieux plus à gauche pour la ramener au palais et pour valider un des objectifs de Jafar.
Okay.
Voilà, il y a pas mal de mécanismes comme ça de déplacement d'objets ou d'alliés vers un lieu.
Et j'imagine que ça doit aussi contraindre les conditions des autres, ou si jamais tel joueur a réussi à déplacer ou accumuler 3 méchants sur le même lieu, alors vous pouvez jouer cette carte.
Oui, tout à fait, sur les cartes conditions, il peut y avoir ce genre de choses.
Ah, cool.
Mais du coup, ça, c'est tu maîtrises pas ça puisque c'est des conditions chez les autres. Donc
chez les autres, oui.
Tu sais jamais s'ils vont le faire ou pas, quoi. Et enfin, t'as la même action pour déplacer des héros. Donc pour déplacer des héros qui te bloquent des actions. Donc ça, tu peux aussi l'attirer, on va dire, attirer le héros sur un autre lieu. Ça te permet de débloquer les actions qui bloquaient sur un lieu. Bon, ça va bloquer les actions sur un autre lieu, mais ça peut t'arranger parce qu'il y a des actions qui sont un peu rares. Et du coup, tu veux pouvoir la faire. En libérant le lieu, Donc tu peux comme ça un peu déplacer les héros qui t'embêtent. Ensuite, t'as l'action qui est éliminer un héros. Donc c'est une action spécifique. Et pour l'éliminer, ben, il faut avoir des alliés dont la somme de force soit au moins égale à la force du héros. Souvent les héros sont assez forts et il va falloir mettre 2 ou 3 alliés pour l'éliminer. Et du coup, quand tu élimines un héros, ben, toutes tes cartes alliées qui ont servi à l'éliminer sont défaussées aussi. Elles restent pas sur le plateau. Donc souvent ça va te retarder aussi pour faire d'autres choses avec ces alliés puisque tu vas les utiliser pour enlever le héros et pour libérer en fait le lieu qui était bloqué par un héros. Et enfin la dernière action possible, ça va être de défausser des cartes de sa main. En fait à chaque fin de tour on refait sa main à 4 cartes. Donc là le fait de défausser des cartes ça va permettre de chercher des cartes dans le deck puisqu'il y a beaucoup de héros qui doivent tomber sur des cartes spécifiques pour faire avancer leur objectif. Et du coup, ce système de défausse et de fouille dans ton deck est assez important. Il y a vraiment le fait de renouveler sa main et de chercher. Pour certains méchants, en fait, c'est très important de pouvoir les fouiller rapidement dans son deck. D'où l'action de défausse pour refaire ta main.
Ok. Bon, ça fait beaucoup d'actions possibles par tour.
C'est ça. Généralement, t'en as 4 parmi ces 8 qui sont possibles à chaque tour en fonction du lieu. Et donc, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux sur un lieu. Donc, faut bien réfléchir aussi à l'ordonnancement des actions que tu vas faire. Par exemple, jouer une carte avant de récupérer de l'argent si t'as pas assez d'argent. Bon, ça, tu le vois vite, hein, mais tu vois vite que tu peux pas la jouer. Donc, tu vas d'abord récupérer de l'argent. Donc, c'est pas un problème. Mais il y a certaines actions, des fois, que tu peux faire un peu vite. Genre déplacer un personnage et après vouloir faire une action qui nécessitait par exemple éliminer un héros qui nécessitait que ce personnage soit là avant que tu le déplaces. Enfin, l'ordonnancement des actions peut avoir son importance.
Mais du coup, quand un joueur fait ses actions, les autres ne font rien. Ils regardent juste. Ils ont peut-être une ou deux cartes conditions qui vérifient de temps en temps pour voir si
la condition
si
est remplie
rapproche.
Pour la jouer. Ouais, tout à fait.
Mais sinon, on n'interrompt pas le tour de l'autre. Il n'y a pas de counterspell. Chacun joue son petit tableau là et joue ses actions. Ok. Effectivement, je comprends que plus on est nombreux, plus
ça peut prendre un peu de temps.
La partie doit durer, oui.
Ouais, tout à fait. Alors après, dans les cartes conditions, il peut y avoir certains counterspells. Enfin, une carte condition peut empêcher éventuellement quelqu'un de faire quelque chose. Mais finalement, c'est pas si fréquent. Après, l'autre chose que tu dois faire aussi pendant le tour des adversaires, c'est qu'il faut quand même être un peu attentif à ce qu'il fait. Parce qu'en fait, tu connais les conditions des autres méchants. Tu sais quand un autre méchant va gagner.
Oui.
Donc faut quand même être vigilant.
Ah, pour savoir sur qui taper le tour d'après.
Tout à fait. Non mais c'est tout à fait ça. Mais généralement tu t'en rends compte à la fin. Genre quand il a 2 tours de gagner, là tu commences à lui taper dessus. Mais des fois c'est un peu trop tard. Faut... En fait je pense que quand tu connais bien... Moi j'ai pas encore assez joué pour connaître parfaitement les 6 méchants. Mais je pense que quand tu connais bien les mécanismes de chaque méchant, tu peux sentir plus tôt s'il est sur la bonne voie. Et du coup essayer de l'empêcher un petit peu plus tôt. Mais bon, on y reviendra...
D'accord. Ça rallonge pas artificiellement la durée des parties là on commence à connaître ce que doivent faire les autres. Enfin, moi j'ai ces horribles expériences avec Munchkin où un joueur arrive au niveau 9, tout le monde lui tombe dessus, il descend au niveau 7, puis un autre arrive au niveau 9, tous les autres lui tombent dessus. Ça dure une heure de trop.
Alors, je vais y revenir, il y a un peu cet effet-là qui est beaucoup moins exacerbé que dans Munchkin parce que tu vas pouvoir retarder d'un ou deux tours, mais tu vas jamais pouvoir le retarder indéfiniment, quoi.
Ok.
C'est pas. Mais ça peut faire changer la personne qui gagne la partie. Je reviendrai sur une anecdote de ma première partie où justement il y a eu comme ça un espèce de triangle d'empêchement à chaque fois. J'empêche l'autre. Ouais, bon, à un moment, je décide d'essayer d'y aller parce que si on s'empêche tous les uns et les autres, il n'y a personne qui gagne. Donc moi, je vais essayer de gagner. Mais du coup, ça libère. T'as pas empêché un tel, donc il va gagner avant toi. Enfin, tu peux avoir un peu ce genre de situation. Mais bon, ça dure jamais plus de 2-3 tours, en fait. C'est pas quelque chose qui va doubler la durée de la partie, quoi.
Bien.
Alors les comparatifs avec les jeux de la même famille, j'ai pas vraiment de, c'est un mélange en fait. Il y a pas de jeu exactement du même style. Comme je te dis, l'espèce de plateau individuel là avec les actions où tu vas déplacer, ça me fait penser beaucoup à Scythe. Et il y a d'autres jeux, j'ai pas en tête, mais il y a d'autres jeux qui utilisent cette mécanique. Et après, ça va beaucoup jouer sur les cartes en fait, avec des cartes avec ces deux decks en fait, un deck de cartes qui est pour toi et un deck de cartes positives on va dire, et un deck de cartes qui vient t'embêter. Et y a rien qui me vient à l'esprit comme ça qui fonctionne pareil. Après c'est un jeu qui va beaucoup jouer avec les synergies de cartes etc. Donc il y a plein de jeux qui
en étant autant asymétrique et en plus en ayant des objectifs explicites, parce que souvent c'est les objectifs secrets qui font que
tout à fait ouais.
Il y a une asymétrie et chacun va dans son petit coin et tiens celui-là il est en train de récupérer plein de gemmes bleues, faudrait peut-être que j'aille l'embêter.
Ouais.
Mais là effectivement c'est ça paraît original de, on sait que la reine de cœur veut faire le meilleur coup de croquet du monde et du coup on sait sur quoi taper quand elle commence à se rapprocher de la victoire.
Ouais tout à fait. Elle c'est marrant parce que du coup c'est les alliés qu'elle met en dessous c'est des cartes. Et du coup, elle doit les plier pour faire des arceaux de croquet, quoi. Enfin, il y a une action à faire pour mettre la carte, pour basculer la carte, en fait. Enfin, c'est un des trucs, par contre, qui est génial dans ce jeu, c'est que vraiment, au niveau thématique et au niveau utilisation du thème, ça y va, mais vraiment très très bien, quoi. Vraiment, les cartes, les actions qui doivent être faites, l'immersion par rapport au thème de ces méchants de Disney et des dessins animés correspondants est vraiment, vraiment super bien retranscrit. Je veux dire, tout est logique. Quand tu connais le dessin animé, quand tu connais le méchant, il y a rien qui paraît bizarre, quoi. C'est vraiment bien intégré.
Et du coup, c'est d'autant plus accessible et rapide de maîtriser le jeu, parce que s'il y a une bonne adéquation entre ces mécanismes et le thème, on sait très rapidement comment faire pour gagner.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est assez naturel effectivement quand tu connais le personnage, ce que tu dois faire vient assez naturellement. Après, les règles et toutes les petites subtilités de, enfin, il y a beaucoup de textes. Hein, les cartes sont quand même spécifiques à chaque personnage, donc il y a beaucoup de textes à lire pour savoir ce que fait la carte, même si c'est naturel. Le jeu est pas si simple que ça. Je veux dire, malgré la thématique très familiale, très casual, on va dire, le jeu demande quand même un petit peu de réflexion, de stratégie, et c'est pas... Le 10 ans, pareil aussi, le 10 ans, il est, à mon avis, 10 ans pour du 10 ans qui joue déjà un peu à du jeu de société, quoi. Du 10 ans qui achète ça, premier jeu de société de sa vie, je pense qu'il
ça va risque d'être
jouer,
un peu compliqué.
Ouais, ouais. Il va pas y jouer beaucoup, je pense. Il y a quand même... Il y a quand même un livret de règles qui est un petit peu costaud, avec pas mal d'explications de chaque capacité, un glossaire, etc. Donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper hyper facilement accessible, même si pour un joueur les règles sont relativement simples. Hein. Je t'ai dit, il y a les 8 actions, il y a des icônes pour les actions qu'on comprend assez facilement, il y a une aide de jeu. Et après c'est de la lecture des cartes et de la compréhension de l'objectif du personnage, mais... Ouais, familial plus, on va dire ça, c'est le terme usité. ouais, sur les trucs malins, ben c'est vraiment l'utilisation, ils ont vraiment joué la carte thématique à fond. Là où c'est malin, c'est qu'ils ont un socle de base commun à tous les personnages, c'est-à-dire ces 8 actions et les types de cartes. Et en fait, après, ils font vraiment la différenciation avec les actions qu'il y a sur les lieux et avec les decks de cartes qui sont vraiment assez différenciés. Et ça, je trouve ça vachement fort, le fait d'avoir vraiment un socle de mécanique commun, mais avec une différenciation thématique très forte et très très bien amenée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant avec ce jeu. Après, il est pas exempt de défauts. Comme on le disait, ben moi, je le trouve un petit peu long pour ce que c'est. Je le trouve un petit peu long pour ce que c'est, parce que effectivement quand tu joues même à 4, tu sur une première partie à 4, t'y passes facilement 2 heures, quoi. Après, quand tu maîtrises bien, je pense que tu descends à 15-20 minutes par joueur, mais quand même sur du plus d'une heure à 4. Et du coup, ben voilà, si tu joues à 5 ou à 6,
ouais, ça ressemble à ces jeux de société un peu longs où les parents sont bien contents si jamais les enfants arrivent à y jouer tout seuls, parce que ça bloque 2 heures pendant la journée pluvieuse, pendant les vacances, quoi.
C'est ça. Alors après je pense que oui, tu peux mettre un peu moins de temps, mais sur l'interaction aussi, comme elle est assez indirecte, ben finalement pendant le tour d'un autre joueur tu vas être assez passif quand même, à part voilà les 2-3 fois où tu auras une carte condition à jouer. Mais même à 4, hein, t'as le temps d'aller te chercher une bière et d'aller aux toilettes largement, en attendant que ça revienne à toi, quoi. Donc ça, c'est un peu le reproche que je lui ferais. C'est vraiment ça. Et ouais, je trouve que Enfin, je sais pas comment ils auraient pu faire ça, mais pour accélérer le jeu, en fait, ça aurait peut-être rendu pas pareil, mais moi je le trouve un chouïa long pour ce que c'est, ouais.
D'accord. Moi, ouais, c'est bon à savoir. Hein.
Ouais. Au niveau de l'ergonomie, ben, c'est plutôt bien foutu, hein. Le matériel en plus est plutôt très joli. L'édition est plutôt réussie.
On a cette des belles grosses figurines.
Ouais. Enfin, grosses, ouais, si, elles sont assez. Je mettrai des photos, elles font, je sais pas dire, 5-7 cm peut-être.
Oui, c'est pas comme la chaussure et le fer à repasser qui est
dans
Monopoly, quoi.
C'est plus gros,
et elles sont plus qualitatif.
Ouais, ouais, et ultra stylisées, c'est ça que j'aime bien, elles sont ultra stylisées, elles sont en plastique transparent comme ça, avec une couleur, chaque figurine a une couleur différente, on les identifie bien, enfin, chaque personnage a un peu une couleur bien identifiable. Et c'est vraiment chouette. Il y a un petit bol, une espèce de petite coupe en plastique qui représente une sorte de chaudron dans lequel tu poses
les jetons de pouvoir.
Tout ça, ouais, c'est ça, c'est la réserve, ouais, des jetons de pouvoir. Donc ça, tu mets ça au milieu de la table, c'est plutôt joli aussi. Après, il y a quelques autres jetons. Alors, j'ai pas expliqué, mais sur certains personnages, il y a des lieux qui sont bloqués sur lesquels tu peux pas aller. Il y a un cadenas et du coup, faut faire une certaine action pour le débloquer, pour y aller après. Enfin, voilà, il y a des petites subtilités. Je suis pas rentré dans le détail, mais il y a plein de petites subtilités en fonction des méchants et des personnages. Il y a une petite règle additionnelle à 5 et 6 joueurs d'ailleurs par rapport aux cartes fatalité. Pour éviter un peu l'effet tout le monde s'acharne sur le même joueur, parce que t'imagines si t'es à 5 et qu'il y en a 4 qui se décident de s'allier sur un joueur, si le pauvre il prend 4 cartes fatalité par tour, c'est un peu, ouais, c'est un peu violent. Donc il y a une règle à 5 et 6 pour éviter ça. En fait, quand un joueur se prend une carte fatalité, il récupère un espèce de jeton d'immunité. Et donc tant qu'il a ce jeton devant lui, on peut pas lui mettre de carte fatalité. Et en fait, ce jeton est transmis au joueur suivant qui se prend une carte fatalité. Donc ce qui fait que tu peux jamais te prendre deux fois de suite une carte fatalité. Voilà. Ça c'est un petit équilibrage à 5 et 6 joueurs pour éviter un peu l'acharnement sur un seul et même joueur.
Oui, ça paraît plutôt malin, ouais.
Ouais. Donc comme je le disais, moi je le conseille plutôt à 2 ou 3 joueurs. Je crois que même sur la boîte, alors je sais plus comment c'est écrit, mais c'est pas vraiment un jeu conseillé pour deux joueurs, mais genre c'est écrit un jeu qui se joue parfaitement à deux joueurs, tu vois.
Genre, d'accord. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on peut suffisamment embêter l'autre quand on est que deux?
Alors,
parce que quand on est trois ou quatre, on comprend bien que si le prince Jean s'envole vers la victoire, s'il y a deux joueurs qui se disent bon allez, on va se sacrifier une partie de ses actions pour essayer de le calmer un peu.
Ouais.
Mais quand t'es à deux, du coup, tu peux te retrouver dans une configuration où
il
y a
oui
Peter Pan qui t'empêche d'embêter l'autre.
Ouais. Je pense qu'à deux, en fait, finalement, t'as un peu plus de contrôle puisque déjà tu surveilles vachement plus ce que fait l'autre. Je veux dire, quand t'es à trois ou quatre, et puis que t'as beaucoup que c'est un peu long entre les tours, il y a un moment, tu décroches un peu, tu surveilles pas forcément chaque joueur de près. Quand tu joues à deux, à mon avis, tu surveilles bien ce que l'autre fait. Et il y a moins d'effet kingmaking parce que toutes les cartes fatalité que tu vas jouer, alors en fonction du lieu où tu vas, tu peux en choisir d'en jouer plus ou moins, hein, mais toutes les cartes fatalité que tu vas jouer va chez l'adversaire et vice versa. À 3, tu vois, tu peux avoir cet effet de il y en a deux qui se prennent des cartes fatalité, qui s'embêtent l'un l'autre parce que tu m'as mis une carte fatalité donc je t'en mets une à toi, tu m'en as mis une, je t'en remets une.
Ouais.
Et un joueur plus tranquille, quoi. Un joueur qui est un peu moins embêté. À 2, au moins t'as cet affrontement direct qui fait que t'as plus de contrôle, je pense, à 2. Mais c'est comme beaucoup de jeux, hein. À 2, t'as plus de contrôle, t'as plus de vision sur ce que l'autre fait et tu peux plus directement agir sur ce qu'il fait. Et je pense qu'à 5-6, c'est un peu plus le bordel, quoi.
D'accord.
C'est un peu plus.
C'est bon à savoir, ouais.
Voilà, c'est un peu plus chaotique. Je pense que tu contrôles un peu moins ce qui se passe. Mais c'est ça qui me gêne, c'est qu'à 5-6, je sens que le jeu serait plus fun, tu vois, en termes d'interaction, en termes de. Voilà, vraiment, en termes d'interaction, le jeu est. Je le vois clairement plus fun à 5-6. Mais en même temps, je le trouve vraiment trop long à 5-6. Donc, c'est un petit bémol, c'est que. Au niveau de l'interaction, au niveau d'avoir aussi les différents méchants autour de la table avec les différentes règles, toutes les fatalités possibles, etc. Ça rend ça intéressant, mais plus de 2 heures, voire 3 heures à 6, je trouve ça vraiment, vraiment trop long, quoi.
Ouais, ça force à consommer beaucoup de chips.
Ouais, mais t'imagines, quand tu joues à... je sais pas combien de temps exactement dure le tour d'un joueur, mais si, imaginons le tour d'un joueur dure 3-4 minutes. Quand t'es assis, c'est que t'en as 5 qui jouent avant toi.
Bah, ça fait un quart d'heure
que
avant
peux
que...
attendre un quart d'heure avant de jouer. Enfin, je sais pas. C'est, je trouve ça gênant, en fait.
Le ratio, c'est... ouais. Mais tu te dis, sur une partie de 3 heures, j'ai joué effectivement 30 minutes.
Ouais.
Et pendant 2 heures et demie, j'ai attendu que les autres fassent leur truc. Certes, très cool, mais...
C'est
2 heures et demie de passivité.
C'est le truc un peu dommage, je pense.
Ça peut être gênant, ouais.
Et du coup, à 2-3, je pense qu'il est bien. Voilà, 4 maximum. Même si plus t'es nombreux, comme je disais, plus tu rajoutes une dose un peu de fun et d'interaction, puisqu'il y a beaucoup plus d'échanges de cartes, fatalité notamment.
Ouais. Et du coup, les méchants sont équilibrés ou pas?
Alors
si
ça,
doit jouer que à 2 à 3, faut bien les choisir.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre petit bémol, c'est que c'est pas parfaitement équilibré. Typiquement, moi, dans les parties que j'ai faites, il y a énormément de parties où c'est le prince Jean qui gagne. Alors, je sais pas si c'est dû à la personne qui joue le prince Jean qui est meilleur que nous ou au personnage en lui-même. Mais globalement, ouais, tu sens qu'il y a des objectifs qui sont un peu plus faciles à atteindre que d'autres. Bah, le prince Jean, c'est vraiment récupérer des pièces. Donc, alors, il y a plein de choses qui peuvent l'empêcher de récupérer des pièces parce que ces actions qui récupèrent des pièces sont souvent sur la partie haute de son plateau, donc qui peuvent être masquées par des héros. Mais du coup, le prince Jean, je pense qu'il faut vraiment lui mettre des fatalités très tôt dans la partie parce que. En fait, si tu te rends compte qu'il est à 18 pièces et que tu veux le bloquer, c'est pas possible parce qu'il a des cartes qui permettent de récupérer des pièces. Il a plein d'autres moyens de récupérer des pièces. Mmh. Donc, il faut vraiment le bloquer tôt, ce qu'on a peut-être pas fait sur les premières parties. Et après, t'en as d'autres où c'est beaucoup plus aléatoire du fait que, comme je te dis, il y a des objectifs qui sont liés à des objets que tu vas récupérer dans ton deck. Donc effectivement, si tu les récupères dès le début de la partie, tu vas aller un peu plus vite. Par contre, si tu dois utiliser des actions de défausse pour fouiller ton deck jusqu'au dernier quart de ton deck, tu vois, et ben ça va te retarder un petit peu.
Effectivement.
Même si généralement c'est ces méchants-là qui doivent fouiller dans leur deck ont aussi des cartes qui leur permettent de fouiller dans leur deck, tu vois. Enfin, c'est quand même plutôt bien foutu. Mais après, Je pense que c'est dur d'équilibrer parfaitement ces personnages vu que c'est asymétrique. C'est pas parfaitement équilibré. Et justement, je pense que là, à 2, c'est là où ça peut être un peu dangereux, parce qu'à plus, l'équilibrage se fait un peu par aussi, il y a plus
les
de gens qui vont taper, voilà, les interactions, plus de gens qui vont mettre des cartes fatalité au prince Jean, parce que on sait qu'il a gagné 3 fois, on a déjà la 3ème partie ensemble, et on sait que le prince Jean, c'est un personnage qui gagne, souvent, donc qui est dangereux, donc je vais plus le surveiller. Mais c'est vrai que sur des parties à 2, c'est peut-être un peu plus dur, quoi. Enfin, si tu utilises tes actions pour essayer de mettre plein de fatalités au prince Jean, bah, tu vas forcément aussi moins avancer dans tes objectifs à toi. Donc, ouais, les persos sont pas, je pense, pas parfaitement équilibrés, quoi. Mais ça fait partie aussi du charme du jeu asymétrique.
Oui, oui, tout à fait.
C'est l'expérience aussi, je pense. Voilà, ça fait partie de la courbe d'apprentissage et d'évolution. Effectivement, la première fois
ce genre de jeu qui n'est pas un pur jeu de gestion de comptabilité avancée, c'est normal et c'est souhaitable que tous les joueurs n'aient pas autant de facilité à gagner parce que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de comment on règle ces problèmes-là entre joueurs.
Ouais,
c'est pas forcément un travail que uniquement le studio de développement doit faire.
C'est ça. Je pense que ouais, de toute façon, c'est dur pour un studio de développement sur un jeu comme ça de parfaitement
après,
équilibrer
le
tous les personnages.
Prince Jean, hein. C'est normal qu'il gagne. Il est prince, quoi. Les autres, c'est toujours des nuls qui essayent de récupérer le pouvoir. Lui, il a le pouvoir.
C'est vrai. Il a le pouvoir. Alors, pendant que son frère ou son cousin, je sais plus, est
son
parti
frère
en,
Richard
ouais,
est
parti
en croisade.
Hein. C'est ça. Pour terminer sur la partie suite, extension, contenu additionnel, etc., bah forcément c'est un jeu qui est très propice à extension.
Il y aura plein de méchants.
Puisqu'il y a, forcément plein de méchants dans l'univers Disney et on peut leur faire, à partir du même mécanisme de cartes et de plateaux, on peut leur faire des objectifs.
Ah, il y aura la méchante des 101 Dalmatiens, elle est atroce celle-là.
Cruella.
Ouais.
Alors, faut dire que c'est un jeu, alors je l'ai pas dit en début d'émission, mais généralement on essaie de faire des jeux récents. Là, c'est pas un jeu qui est de première fraîcheur, on va dire, puisqu'il est sorti déjà il y a plus de 4 ou 5 mois en France. C'est un jeu qui a mis longtemps à arriver en France, puisqu'il est sorti en 2018 aux US, et il a mis pratiquement un an en fait à arriver chez nous. Il a été assez long. Et donc là, aux US, ils ont déjà deux extensions, mais qui sont pas encore arrivées chez nous.
Ah oui, et comme tu disais qu'il y a beaucoup de textes, on peut pas juste acheter
Bah, à part si tu parles très bien anglais, si tu parles très bien anglais, il y a pas de souci, mais je pense que c'est faut vraiment bien parler anglais pour acheter les extensions puisque tu as tous les objectifs, toutes les cartes avec beaucoup de textes, ouais. C'est pas du matos sans texte, clairement pas. Même si sur les plateaux, il y en a assez peu finalement puisque c'est beaucoup à base d'icônes pour les actions, mais après sur les cartes en elles-mêmes et sur le petit livret objectif, il y a pas mal de textes. Donc pour un peu vous spoiler les extensions, voilà, vous teaser plutôt que spoiler, ouais. Donc il y a une première extension qui s'appelle Wicked to the Core avec en méchant. Alors c'est marrant parce qu'il mélange vraiment des méchants récents, plus anciens, iconiques et un peu moins iconiques. Mais on a le docteur Facilier, le méchant un peu voodoo de La Princesse et la Grenouille.
Ok.
Donc ça c'est la première extension. Il y a trois personnages par extension. Il y a la reine sorcière de Blanche-Neige dans la première extension aussi. Et il y a Hadès, le dieu des enfers de Hercule.
Ouais. Ah, la classe.
C'est assez classe aussi, ouais. Et dans la deuxième extension qui s'appelle Evil Comes Prepared, donc les méchants arrivent bien préparés, il y a Scar du roi Lion.
Ok.
Il y a Isma de Cusco, l'empereur mégalo. Et il y a Ratigan de Basile, détective privé. Donc à part Scar, peut-être des méchants un peu moins iconique de Disney, mais moi ça m'a, enfin Ratigan, Basile détective privé, c'est un dessin animé que j'ai adoré quand j'étais gamin. C'est un peu c'est le Sherlock Holmes de Disney, quoi. Ils ont repris un peu Sherlock Holmes avec des rats. Et, et du coup, ça me fait plaisir qu'il y ait des personnages comme ça un peu moins connus peut-être, je sais pas.
Et tu sais si on peut mélanger, c'est prévu de pouvoir mélanger tout et n'importe quoi.
Ouais, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que déjà les extensions sont auto-portées, enfin sont un peu comme des stand-alone, c'est-à-dire que avec une extension de 3 méchants, vu que t'as tout le matos, t'as tout le matos pour chaque méchant, et ils remettent un certain nombre de jetons pouvoir et tous les jetons particuliers qu'ont besoin les personnages, tu peux acheter une extension de 3 personnages et jouer avec directement à 2 ou 3. Tu pourras pas jouer à 6, mais tu peux jouer directement avec l'extension, en fait, à 2 ou 3 joueurs. Et après, tout est mélangeable. C'est-à-dire qu'après, tu peux les intégrer... c'est toujours... Alors, potentiellement, tu pourrais jouer à plus de 6, mais ça, ils le conseillent pas, parce que je pense que ça devient vraiment trop long.
Eh hey, les gars, l'année dernière, on avait fait une partie avec toutes les extensions d'Horreur Arkham. Et cette année, on va jouer à 12 à Villainous.
On va jouer avec les 12 personnages. Je pense qu'il faut qu'on prévoie une après-midi entière. Mais tu peux aller faire à manger le temps que ça revienne à toi. Mais ouais, non, tout est mélangeable, c'est vraiment ça, c'est assez intéressant. Et le fait que qu'ils remettent, en fait, alors il y a pas le bol en plastique là, l'espèce de chaudron qui fait réserve de pions, mais il y a les pions quand même avec. C'est-à-dire que tu peux jouer vraiment avec les extensions comme si tu jouais avec le jeu de base.
D'accord, mais, parce qu'il y a juste que ces jetons de pouvoir qui est le matériel en fait commun aux trois boîtes.
Oui, tout à fait, parce qu'après c'est des decks et des plateaux qui
c'est
sont
des decks et des plateaux
qui sont particuliers pour chaque
personnalisé.
Pour chaque méchant. Voilà, donc ça c'est plutôt un bon point. Mais pour l'instant, ces extensions sont pas en français et elles sont même pas en VO. Elles sont pas disponibles chez Philibert, ces extensions. On les trouve sur eBay ou sur des boutiques un peu sombre sur internet, mais elles sont pas encore arrivées, même pas en VO en fait, encore chez Philibert, ces deux extensions. On va attendre qu'elles arrivent en français.
Et donc moi j'ai quand même vu les boîtes.
Oui.
Et il y a une petite particularité que j'ai trouvée, je sais pas si c'est intéressant, mais frappant en tout cas, c'est que c'est une des rares boîtes de jeux qui n'a pas de film plastique.
Tout à fait, c'est une boîte
juste
qui n'est pas cellophanée.
C'est ça, ouais. Il y a juste deux disques.
Ouais, deux petites pastilles autocollantes pour sceller
la boîte.
Ferme
la boîte. Mais effectivement, alors je sais pas si c'est dans une démarche de... Peut-être que ça leur coûte juste moins d'argent. Ou est-ce qu'ils se disent c'est du plastique qui de toute façon est balancé à la poubelle et ça serait bien d'avoir un petit peu moins de plastique.
Je pense que c'est les deux. Hein. Je pense que c'est à la fois une démarche un peu écologique et en même temps, ça leur fait gagner de l'argent, donc c'est plutôt cool.
Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais.
Par contre, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il n'y a pas de plastique autour de la boîte. Par contre, chaque deck de cartes méchant est cellophané indépendamment. Donc ça, c'est un peu dommage, tu vois. Après, peut-être que dans le process de fabrication des cartes et pour éviter qu'il y a tout qui
pour
se
pour éviter que ça se mélange
perde, ouais. Que ça se mélange c'est plus facile de cellophaner, mais ils auraient pu mettre, il y a certains maintenant paquets de cartes où t'as juste un petit anneau de plastique, tu vois, au milieu.
Oui.
Bah notamment sur
les
cartes de
ensemble, ouais.
Sur les cartes de Undo, je crois que c'est ça, hein. Je crois que t'as pas un cellophane.
Si, t'as un cellophane d'ailleurs bien pénible à enlever.
À enlever, ah oui, c'est ça. Non, mais j'ai joué à un jeu hier où on avait que des petits anneaux. On l'a dépunché, alors c'était quoi ? Ah, c'était peut-être Unearth chez Edge, où les paquets de cartes, t'as vraiment juste un contour. Tu vois ce que je veux dire ? Une espèce de contour en plastique milieu du paquet, quoi. Enfin, tu peux même le faire en papier, ce truc-là. Tu peux même faire une espèce de serre-carte en papier.
Le serre-carte en papier, c'est comme ça que j'ai reconditionné tous mes paquets de Time Stories.
Bah voilà. Ouais. Mais tu vois, enfin, du coup, c'est un peu paradoxal, tu vois. Effectivement, peut-être qu'ils ont une démarche écolo, mais en même temps, ils la poussent pas à fond, quoi.
Oui, c'est
puisque les paquets de cartes,
de l'amélioration incrémentale, comme on dit.
Et puis t'as 6 paquets de cartes quand même qui sont cellophanés, quoi. C'est pas. Donc finalement, t'as presque autant de plastique que...
à l'intérieur qu'à l'extérieur.
C'est ça. Ce que t'as pas à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur. Bon, c'est toujours mieux que de l'avoir et à l'extérieur et à l'intérieur. Hein, d'accord.
Ok, en tout cas, ça a l'air super cool.
Ouais, bah alors pour mon avis final, vous comprenez que j'ai vraiment apprécié ce côté thématique. Enfin, ça retranscrit vraiment bien ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans Vigilenus. Le côté forcément aussi asymétrique est très intéressant. C'est-à-dire que tu peux faire plusieurs parties, tu vas changer de perso et du coup, avec les mêmes mécaniques de base, tu vas pas du tout avoir la même sensation de jeu, la même partie. Par contre, ouais, le jeu un peu long quand on dépasse 3 joueurs, je trouve. Et après, voilà, il y a pas de, vous n'allez pas trouver de mécaniques qui vont révolutionner le jeu de société ou vous subjuguer. C'est vraiment un jeu qui s'est appuyé sur des mécaniques existantes, qui les a bien mixées. Et on arrive sur quelque chose d'assez intéressant. C'est pas un jeu asymétrique à la route, hein. C'est pas une asymétrie qui est aussi forte dans les règles, puisque dans les mécaniques de jeu, en fait, à proprement parler, tous les personnages utilisent les mêmes mécaniques de jeu.
Ouais, tout le monde fait la même chose, mais voilà, de manière différente, pour des objectifs différents.
C'est ça. C'est vraiment après, dans les cartes, dans les objectifs, qui a cette asymétrie. Mais dans les actions en fait à réaliser, les gens ont pas un livret de règles pour chaque personnage, quoi. C'est vraiment les mêmes actions. Donc vous attendez pas à une asymétrie aussi forte, on va dire, dans la mécanique que dans un route, par exemple. C'est encore une fois, c'est plus une asymétrie. Dans Scythe, il y a un peu ça, même si les objectifs sont un peu plus similaires. Mais voilà, on va avoir des plateaux un peu différents, des peuples avec des pouvoirs différents. C'est plus une asymétrie de ce genre-là. Donc voilà, un bon point pour Vilainus. J'ai oublié de dire le prix lors de la première fiche Signality, que je le ferai dans la deuxième, mais c'est pas un jeu qui est donné, puisqu'il est quand même à 40,50€ chez Philibert, sachant que chez Philibert c'est des tarifs relativement intéressants. Donc je pense qu'il en prix conseillé doit être à 45 ou voire presque 50, je pense, hein, 49 et quelques. Donc voilà, c'est pas un jeu super accessible niveau prix. Après, il y a quand même du matos intéressant. Enfin, il y a énormément de cartes, vu qu'il y a des decks pour chaque perso. Il y a ces petites figurines que moi je trouve magnifiques. Ces figurines bien stylisées des personnages. Voilà. Moi, c'est un jeu que je conseille, comme je l'ai dit, plutôt à 2-3 joueurs. Et qui, du coup, à 2-3 joueurs, a une bonne rejouabilité du fait de la variété des personnages. Les extensions arrivent à surveiller. Et puis, pour les fans, enfin, franchement, ça fait un... Pour une fois qu'une franchise est utilisée de manière un petit peu correcte, enfin qu'on a un jeu de société qui
oui, c'est
qui
pas juste une variation du jeu Monopoly, de loi ou du Monopoly avec une franchise plaquée dessus ou un jeu de questions.
Ouais,
alors dans Harry Potter, comment s'appelle machin ?
Tout à fait,
c'est super. C'est vrai que c'est à saluer. Et puis ça a l'air d'être quand même ultra bien préparé pour être un cadeau typique de Noël,
ouais.
Quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis voilà, si ça marche, ils peuvent faire tous les méchants de l'univers de Disney. C'est ça qui est... Au niveau extension, ils en ont pour des années, quoi. C'est ça qui est...
Et
c'est
comme la licence Star Wars est maintenant chez Disney, ils peuvent faire Palpatine ou
Dark Vador.
Darth Vador.
Dark
c'est
Maul.
La classe.
Ouais. Voilà, donc c'était mon avis sur Vilainus. Donc je vais refaire la fiche signalétique pour clôturer cet épisode.
Génial.
Donc c'est un jeu de Prospero Hall, qui n'est pas un auteur mais un studio de développement. C'est édité par Wonderforge et c'est distribué par Ravensburger. Ravensburger ou Burger, je sais jamais, c'est Burger, je crois, en allemand. Non, enfin, la prononciation, on demandera à Hammer pour ça.
Ouais.
Bah, on sait pas par qui c'est illustré, mais ça réutilise les héros de l'univers Disney, donc c'est sous licence Disney. Donc, sûrement des illustrateurs du studio Disney. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Moi je conseille un petit peu plus parce que le jeu est pas si facile que ça, même si bon, un joueur de 10 ans est capable d'y jouer, hein. Un gamin qui y joue beaucoup, il n'y a pas de souci. C'est des parties qui vont durer, je pense, entre 20 et 30 minutes par joueur. 15 si vraiment vous connaissez le jeu par cœur et que vous déroulez, mais plutôt on est plus sur du 30 pour la première partie et plus du 20 sur une partie sur les parties suivantes, je pense. Donc ça veut dire que si vous jouez à 6, c'est un petit peu long. Forcément, je l'ai déjà dit. Et c'est disponible chez Philibert pour un prix à 40,50€. Et bien voilà.
Excellent.
Je te laisse faire la fermeture.
Allez, c'est parti. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas à venir faire des petits commentaires sur le site. On a aussi un Tipeee et un PayPal pour nous soutenir encore plus mieux. Si vous n'avez pas aimé cette émission, c'est la même solution. Venez nous faire un petit commentaire sur le site. Et surtout, on vous donne rendez-vous le mois prochain, mais pas moi. Ça sera Benoît Fix et Cyrus. C'est l'équipe traditionnelle.
L'équipe A.
Et en attendant, jouez bien.